Oui, ton nom est souverainement élevé. Ton nom est au-dessus de tout nom. À ton nom, tout genou fléchit. Et toute leur confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu es le Dieu très haut. Celui dont la demeure est au-dessus des cieux. Les cieux et les cieux des cieux sont trop petits pour le contenir. Celui qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Tu es éternellement grand, Seigneur. Ce matin, nous célébrons et nous élevons ton grand nom, Seigneur. Nous te bénissons et te glorifions. Oui, tu es bon pour nous, Seigneur. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Besoin des conseils de ta parole. Besoin de tes grâces, besoin de tes bénédictions. Nous voulons que tu rencontres chacun, Seigneur, dans ses préoccupations à travers cette exhortation. Bénis ton peuple, Seigneur, sanctifie ta parole et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Il nous réunit dans sa maison parce qu'il a des choses à faire avec nous. Amen. Je vais nous prier d'ouvrir nos Bibles dans Deux Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 33. Tous les chapitres nous intéressent, mais nous allons plus exploiter du verset 1 au verset 16, mais vous me permettrez de faire la lecture à partir du verset 9. Deux Chroniques 33, je commence la lecture à partir du verset 9. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans le fer. Ils le lièrent avec des chaînes, des reins, et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant Dieu, devant les dieux de ses ancêtres, de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans ce royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Verset 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Je vous propose comme thème ce matin, Dieu se laisse fléchir. Dieu se laisse fléchir. Quand nous lisons la Bible, nous voyons à plusieurs reprises Dieu revenir à sa décision première, la décision qu'il voulait frapper, quand le peuple avait péché. Nous voyons dans Exode 32, quand Israël avait péché avec l'histoire des veaux d'or, l'Éternel était très en colère et voulait détruire ce peuple. Mais Moïse a prié, a intercédé, Moïse a imploré la grâce de Dieu. La Bible dit, Dieu s'est repenti du mal qu'il avait déclaré de faire contre son peuple. Nous voyons aussi quand Dieu voulait détruire Ninive, il a envoyé son serviteur Jonas pour aller avertir ses peuples du mal qui leur arrivait et de la décision de l'Éternel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jonas ne voulait pas y aller parce qu'il savait que Dieu... Quand le peuple se répand, quand le peuple porte, s'humilie, et Dieu change de décision. Jonas ne voulait pas y aller. Et quand il est quand même parti, il a prêché la parole de Dieu, et le peuple s'est humilié, Dieu s'est repenti du mal qu'il avait décidé de faire. Amen. Dieu se laisse fléchir. Ce qu'il faut encore dire, c'est que il ne se laisse pas fléchir parce qu'il est manipulable. Parce que l'on peut manipuler Dieu à pouvoir fléchir et changer sa décision. Non, il fléchit parce que c'est un Dieu miséricordieux. C'est à cause de sa miséricorde qu'il peut changer sa décision et de ne plus frapper. Et ce matin, je veux nous proposer cinq petits points pour le développement de notre message. Le tout premier, nous allons parler de la conduite de Manassé. Cette conduite de Manassé, nous la trouvons du verset 1 au verset 9. La Bible dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans ces Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir d'Israël, du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. » La lecture ici, nous comprenons que Manassé a commis plus de mal que plusieurs autres rois avant lui. Il a très mal agi. Manassé a mal agi plus que même les Cananéens. Vous savez, avant que Dieu ne donne à Israël la terre promise, Dieu attendait à ce que le péché de ces nations-là atteigne le comble. Jusqu'à ce que ces gens avaient suffisamment péché, Dieu ne pouvait plus supporter ces péchés. Et Dieu a décidé de détruire ce peuple et de le remplacer par Israël. Et la Bible dit que Manassé a mal fait plus que ce peuple. Manassé a péché contre Dieu. Il a fait pécher le peuple de Dieu au-delà même de ces pécheurs, des Cananéens, de ces païens-là. Alors que Dieu avait détruit ce peuple à cause de ses péchés, Manassé a fait la même chose. Manassé s'est très mal conduit. Il a péché contre Dieu. Il avait une conduite qui n'était pas bonne. Il a mal fait. Il a péché contre Dieu. Et c'est comme qui dirait ce matin, et c'est pour que nous ayons des gens qui ont mal fait, qui se méconduisent, qui vivent dans le péché, dans le mal. Des fois même le mal que l'on ne peut pas s'imaginer. Et Manassé a fait presque la même chose. La conduite pécheresse de Manassé. Notre deuxième point, c'est l'avertissement de Dieu. Dieu ne châtie pas avant d'avertir son peuple. Nous trouvons ça au verset 10. Manassé, dans cette méconduite, Manassé, dans sa manière de faire, d'irriter l'Éternel, Dieu n'est pas venu le châtier directement. Dieu n'a pas puni, Dieu n'a pas frappé Manassé directement, mais Dieu l'a averti. Dieu ne punit pas sans avertir. Si Dieu arrivait à châtier son peuple, c'est parce qu'il a déjà averti, il a déjà tiré les oreilles, il a fait des remarques, il a tout dit. Et que ce peuple-là ne veut pas se laisser avertir. Et c'est à ce moment-là que Dieu va frapper. La Bible dit, quand Dieu avertit Manassé, Manassé et son peuple ne tirent pas attention à tout ce que l'Éternel dit à son peuple et à lui-même. Manassé ne fait pas attention. Manassé fait la sourde oreille, il ne veut pas écouter les avertissements de Dieu. Il refuse d'écouter. Dieu avertit toujours. Même quand je parlais de Ninive, Dieu a envoyé son peuple pour avertir. Et Dieu nous avertit de plusieurs façons. Il peut nous avertir par la voix intérieure. Il peut nous avertir par la prédication, par la parole. Il peut nous avertir par les autres que nous sommes sur une mauvaise voie, sur une mauvaise pente, que nous nous conduisons mal. Il veut nous ramener sur le droit chemin. Il le fait toujours. Il ne punit pas sans avoir donné l'opportunité à la personne de se repentir et de changer d'attitude. Je peux voir les sacrificateurs Élie. On vient lui dire, lui annoncer la mauvaise nouvelle. Écoutez sa réaction. Il est l'Éternel. Qu'il fasse ce qu'il trouve bon à faire. Non, il donne raison à l'Éternel. Oui, je suis dans le mauvais. J'ai mal fait. Dieu est prêt à frapper. Oui, il est l'Éternel. Il n'a qu'à faire ce qu'il trouve bon à faire. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne prière. Parce que quand Dieu vient t'avertir, il aurait pu frapper sans avertir. Pourquoi il a averti? Pourquoi il est venu te parler? C'est pour que tu reviennes sur tes pas. C'est pour que tu changes d'attitude. Les sacrificateurs pourraient se repentir et dire, oui, j'ai mal fait. Éternel, prends pitié. Notre Dieu est miséricordieux. Certainement, l'Éternel s'est laissé réfléchir. Mais il a laissé. Je disais que Dieu avertit toujours. Avant de frapper, avant de châtier, il avertit toujours. Mais quand Dieu nous avertit, est-ce que nous nous laissons? Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous prêtons attention à ce que Dieu nous dit? Parce que ce Dieu-là n'est pas faible. Il n'est pas faible. Mais seulement, c'est un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde. Il ne veut pas frapper. Ce qu'il désire faire, c'est de bénir son peuple. Ce qu'il désire faire, c'est de faire du bien à son peuple. Mais malgré ça, son peuple se détourne des voies de l'Éternel. Et je viens lui dire, écoutez, rentre sur ma voie. Je vais te faire du bien. Mais quand le peuple s'obstine à faire le mal, à ce moment-là, Dieu va s'appuyer sur sa justice. Quand il s'appuie sur sa justice, à ce moment-là, il frappe. Sa justice lui vient en aide. Là, il va exercer un jugement. Il va châtier. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Notre troisième point, c'est le châtiment de Dieu. Au verset 11. Après avoir averti, Manassé ne s'est pas laissé avertir. Manassé n'a pas écouté. Verset 11, elle lui dit, alors l'Éternel fit venir contre eux, donc Manassé et son peuple, le chef de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes de rein et le menèrent à Babylone. À cause de son péché, à cause du fait qu'il ne s'est pas laissé avertir. Déjà, regardez tout ce qu'il a commis comme péché. Il ne se laisse pas avertir non plus. Et l'Éternel, finalement, prend la décision de frapper. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va utiliser l'armée assyrienne qui viendra saisir le roi Manassé, l'amener là-bas, l'enchaîner, le lier avec des chaînes de fer, des chaînes de rein, et l'amener à Babylone. Vous comprenez, un roi, dans son pays, une armée ennemie arrive, ils le prennent captif, ils l'amènent dans son pays, et il le met dans le chêne. Malachi se retrouve dans une situation difficile. Un citoyen normal, ça se comprendrait. Vous savez, les rois, avec tout ce qu'ils ont comme honneur, tout ce qu'ils ont comme train de vie, et se retrouver dans une situation comme Manassé, dans une humiliation, dont il a été vraiment humilié par l'armée assyrienne. Il a été amené là-bas dans la souffrance. Et c'est ce qui arrive aussi, quand le peuple s'obstine dans le péché, dans le mal. Il y a une forme d'emprisonnement, il y a une forme de captivité. On devient captif de Satan. On devient esclave de ce qui a triomphé de nous. Soit le péché, soit les démons, soit, je ne sais pas moi, des puissances, les ténèbres qui viennent, qui nous assiègent et qui prennent le dessus sur nous et qui commencent à contrôler nos vies. Et dès lors, nous ne savons plus quoi faire de bien. Et c'est la souffrance, c'est le malheur. C'est toutes sortes de difficultés. Il n'y a plus de prospérité, il n'y a plus d'avancement, on n'avance plus. On est en train de souffrir. C'est la situation dans laquelle Manassé s'est retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas laissé avertir par Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Dieu, c'est vrai, il aime le pécheur. Mais quand on tombe dans le péché, Dieu vient pour nous aider, pour aider son peuple à pouvoir se relever, à le tirer de là où il est. Il s'est retrouvé puisqu'il est tombé trop bas, il vient le relever. Alors quand Dieu te tend la main pour te relever, laisse-toi saisir et élève-toi à être élevé par l'Éternel. Si tu ne te laisses pas, Dieu ne fera pas, il ne fera plus rien. Il t'a tendu la main, saisis la main tendue de Dieu. Ne rejette pas la main tendue de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Même dans ces moments de détresse, même dans ces moments de souffrance, nous nous obstinons encore dans les mal. Nous restons encore dans la même situation. Alors que nous savons pertinemment bien que ce qui nous arrive, c'est à cause de notre conduite. C'est à cause de ce que nous nous avons fait. Nous comprenons que Dieu n'est pas avec nous. Mais aussi le Dieu qui n'est pas avec nous, il nous tend la main. Puisqu'il nous a tendu la main, qu'est-ce qu'il y a bien à faire? Sinon de saisir cette main tendue de Dieu. C'est ce que Manassé a fait. Si vous lisez le verset 12, la Bible dit, lorsqu'il fut dans la détresse, vous comprenez? Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Lorsqu'il fut dans la détresse causée par sa propre faute, ce n'était pas une épreuve, non, ce n'était pas une épreuve. C'était à cause de sa faute. Ce n'était pas l'épreuve qui venait de Dieu. Dieu ne l'éprouvait pas, non. C'est lui qui avait mal agi. Il était sous le châtiment de Dieu. Mais dans sa détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Bien aimé, ça c'est fort. C'est très fort. La Bible dit, il implora l'Éternel, son Dieu. Je me pose la question, si l'Éternel était encore son Dieu, lui qui s'était méconduit, lui qui s'était éloigné de Dieu, la Bible dit, il implora l'Éternel, son Dieu. Même au loin où il était, loin de Dieu, loin de la présence de Dieu, l'Éternel demeurait encore son Dieu. Je me dirai à quelqu'un ce matin, l'Éternel est encore ton Dieu. L'Éternel est encore ton Dieu. Même si tu t'es égaré, tu t'es éloigné, sois rassuré ce matin qu'il n'a jamais cessé d'être ton Dieu. L'Éternel est encore ton Dieu. Mais dans cette détresse, que fais-tu? Quelle est ton attitude? Manassé, dans sa détresse, il a imploré l'Éternel son Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel son Dieu a fait? La Bible dit, nous continuons la lecture, écoutez. Quand il a imploré l'Éternel son Dieu, la Bible dit, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il n'y a pas seulement d'implorer l'Éternel, mais aussi de s'humilier profondément. La Bible précise, il ne s'est pas seulement humilié, mais cette humiliation était profonde. Donc ça veut dire qu'il était vraiment dérangé au fond de lui. Il a réalisé son mal. Il a compris que c'est lui le fautif. Il adressa ses prières à l'Éternel. D'abord, il prend conscience de sa situation dans sa détresse. Il implore l'Éternel son Dieu. Il s'humilie profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adresse ses prières. Et l'Éternel se laisse fléchir. C'est ça notre troisième point. Dieu se laisse fléchir. Bien-aimé, le châtiment de Dieu n'a pas pour finalité la destruction. Quand Dieu châtie son enfant, ce n'est pas parce qu'il veut le détruire. Dans Hébreux chapitre 12, nous comprenons que Dieu châtie ses enfants. Et un père châtie toujours ses enfants. Ce n'est pas parce qu'un père a châtié, a puni son enfant, que finalement, c'est forcément que ce père veut détruire son enfant. Dieu ne veut pas détruire ses enfants. Il n'est pas ce père qui tue ses enfants. Il est ce père qui veut récupérer ses enfants qui se sont éloignés de lui. Les enfants qui sont allés au loin, il veut le récupérer. Souvenez-vous de ce fils prodigue qui est allé dilapider le bien de son père avec des prostituées dans un pays éloigné. Après avoir pris la part de son héritage, après avoir fait du mal à son père, parce qu'il voulait la mort de son père. Mais ce père avait bien sûr mal au cœur, mais ce père n'avait pas renoncé à son amour à l'égard de son fils. Il attendait toujours, il priait toujours pour son fils. Il se disait certainement un jour il reviendra. Un jour, il reviendra. J'attends qu'il revienne. J'attends qu'il revienne. S'il pouvait revenir aujourd'hui, comme ce matin, Dieu attend que quelqu'un revienne à lui. Il t'attend que tu reviennes. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Il est là en train de t'attendre. Ce fils prodigue, c'est dans sa détresse que lui aussi avait compris que ce n'était pas sa place. Il devrait rentrer vers son père. Bien-aimé, ce n'est pas de la honte que de revenir à Dieu parce qu'on connaît des moments difficiles. Que ces moments difficiles que nous connaissons, que ces moments de combat que nous connaissons, que tous ces blocages que nous connaissons, que tout le malheur qui nous arrive parce que nous sommes éloignés de Dieu, que ces difficultés-là soient des stimulus qui nous pousse à revenir vers Dieu. Que ça nous stimule à revenir vers notre Dieu comme Manassé. Même si c'est douloureux. Oui, Dieu a fermé les robinets, il a fermé à gauche, à droite. Plus rien ne marche. Non, même s'il a fermé, c'est pas pour nous détruire. C'est pour nous ramener à un moment donné pour comprendre que nous devons revenir à Dieu. Ça voulait dire que le châtiment de Dieu est pour des fins pédagogiques. Dieu nous châtie pour nous enseigner. Il nous châtie pour nous donner la discipline qui nous permet de revenir vers lui. La discipline n'a jamais été facile. La discipline fait pleurer. Elle est douloureuse. Mais elle façonne notre caractère. Elle nous façonne, elle nous forge. Elle nous donne une forme. La discipline. Quelle a été l'attitude de Manassé qui a poussé Dieu à pouvoir puiser dans sa miséricorde pour se laisser fléchir? Nous l'avons déjà dit. Quelle a été cette attitude? Manassé a imploré l'Éternel. Manassé a imploré l'Éternel dans ces moments difficiles. Il a imploré l'Éternel. L'Éternel attend que nous puissions l'implorer. Ce matin, c'est un matin de grâce. C'est un matin de faveur de l'Éternel. Ce n'est pas un matin de jugement. Vous savez, le châtiment de Dieu est différent des jugements de Dieu. Par moments, ça peut être la même chose, mais ça peut aussi se séparer. Le jugement vient des fois après que la personne ne s'est pas laissée avertir par le châtiment de Dieu. À ce moment-là, il y a un jugement définitif qui arrive pour juger par la justice de Dieu, elle apporte un jugement. Mais ce matin, si nous revenons à lui, ce matin, si nous implorons sa grâce, sa miséricorde, il est là. Il est là pour nous écouter. Il est là pour nous réserver bon accueil. Il est là pour pardonner. Quelque part, il est écrit, la colère de Dieu dure un instant, mais sa miséricorde, sa grâce, toute une vie. La colère de Dieu, c'est pour un court moment. Mais la grâce de Dieu, c'est pour toute une vie. Alors ne nous laissons pas dans cette colère, alors que la grâce est disponible. Implorons l'Éternel. Manassé a imploré, malgré le châtiment de l'Éternel. Il s'est humilié profondément et lui a adressé ses prières. Alors, quand Dieu se laisse fléchir, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit tout simplement pas non que je te pardonne, non. C'est vrai. Quand il écoute nos supplications, quand nous nous repentons, il considère cela. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et ce qu'il a fait avec Manassé? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord exaucer ses supplications. Il lui adressa ses prières, ça c'est le verset 13. L'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications. Donc Dieu écoute la prière. Quand on s'humilie, quand on revient à Dieu, quand on lui parle, on le supplie, Dieu écoute. Dieu exauça ses supplications. Et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Ça encore, c'est fort, frère. C'est très fort. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches. Je ne suis pas allé en profondeur pour démontrer combien de temps cela a fait que Manassé a fait comme captivité à Babylone. Mais je veux que vous puissiez comprendre avec moi qu'il était roi. On l'a pris du trône. On l'a amené dans un pays étranger, on l'a mis dans les siennes, dans ses moments de souffrance, dans sa détresse, il va implorer l'Éternel, l'Éternel va exaucer ses supplications, mais l'Éternel va le rétablir. L'Éternel le ramène à Jérusalem. Bien aimé, ce n'est pas peu de choses. Je ne sais pas si cela peut se faire aujourd'hui. Parce que dans ce monde, aujourd'hui, nous connaissons un président qui a été pris dans son pays et on l'a mis quelque part. Mais je ne sais pas si c'est possible que ce président-là, qu'on le ramène encore de là où il est, dans son lieu d'incarcération, qu'on le ramène dans son pays et qu'on lui redonne le trône, le pouvoir. Je ne sais pas. Mais je vois l'Éternel qui prend Manassé, qui avait perdu la royauté, qui était devenu un captif. Ça a duré combien de temps? Je ne sais pas le dire aujourd'hui. On peut toujours le dire. Mais Dieu le prend et le rétablit à Jérusalem. Alléluia. Lui, Manassé, qui avait péché. Bien-aimé, l'Éternel peut te restaurer. L'Éternel peut te restaurer et te rétablir dans ta position première. La position que tu as perdue, oui, par ta faute. Il peut te rétablir. Il peut te reprendre et te rétablir dans cette position-là. Il peut te restaurer. Et ce que l'Éternel a fait, il a pris Manassé. Pourquoi? Parce que Manassé s'est humilié profondément. Et l'Éternel l'a rétabli. La même chose avec le fils prodigue. Quand il s'est humilié, il s'est dit à lui-même, je vais rentrer vers mon père, je lui dirai, père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. J'aimerais bien rester, profiter ne serait-ce que de la nourriture. J'ai déjà pris ma part, je n'ai plus de part dans la maison du père. J'ai tout perdu. Je n'ai plus de droits. Mais le père n'a pas considéré cette prière. Le père lui a dit, écoutez, tu es toujours mon fils. Même quand tu étais au loin, mon cœur saignait. Je t'attendais. Maintenant que tu es revenu, je veux te rétablir. Je veux te restaurer. Le père a ordonné qu'il soit lavé et qu'on lui donne une jolie robe. Et le père l'a reçu encore dans la maison. Et il lui a restitué tous les droits. Tous les droits perdus. Il avait encore droit à l'héritage. Alléluia. Nous avons encore des droits. Tout ce que l'Éternel nous a donné, nous pouvons encore le réclamer. Et si nous revenons à lui, nous n'aurons rien perdu. Nous allons tout perdre si nous ne revenons pas. Mais si nous revenons à lui, nous n'aurons rien perdu. Alléluia. Ce que nous avons dilapidé, il serait perdu. Il serait oublié. Mais quand nous revenons à lui, nous commencerons une nouvelle vie avec lui. Et il va tout nous donner. Il va nous rétablir, il va nous restaurer. Et ce que l'Éternel a fait avec Manassé. Manassé qui avait perdu la royauté, il l'a retrouvé. L'Éternel fait nous retrouver, l'Éternel fait nous récupérer toutes les années que nous avons perdues. Tout ce que nous avons eu à perdre, si nous revenons à lui, nous allons tout récupérer. Il n'y a rien que nous allons perdre à jamais si nous revenons à lui. Tout celui qui est revenu à l'Éternel a récupéré ce qu'il avait perdu. Si nous revenons à lui, nous allons récupérer. Mais si nous nous obstinons, à ce moment-là, le jugement va tomber. Plaise à Dieu que nous revenons à lui ce matin. Parce que ce matin, c'est comme un avertissement que l'Éternel nous fait. Il nous fait comprendre qu'il n'est pas là pour seulement fouetter, châtier, frapper. Il veut dire, tout ce qu'il a fait, c'est juste sa manière de nous enseigner. C'est sa pédagogie pour que nous revenions sur le droit chemin. Et si nous le faisons, il va nous rétablir et nous restaurer. Et ce qu'il a fait avec Manassé. Pour terminer le cinquième point, bien-aimé, qu'est-ce que Manassé a fait par la suite? Manassé était reconnaissant. Il a compris que ce n'était qu'une seconde grâce, une seconde chance qu'il a reçue. Ce n'était pas ses mérites, c'était la grâce de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu pardonne, c'est pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous l'avons influencé, pas parce que nous avons fait de meilleures choses pour que Dieu revienne à sa décision. Non, c'est parce que Dieu-là est miséricordieux. C'est par sa miséricorde qu'il a pu changer de position et de décision parce que nous sommes revenus à lui. Alors, nous devons à Dieu la reconnaissance. Et ce que Manassé a fait, Manassé était reconnaissant. Nous lisons à partir du verset 14. Elle me dit, après cela, il bâtit en dehors de la ville de David. J'ai lu quand même le verset 13 et puis nous continuons. Il lui adressa sa prière et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Maintenant, ce qui nous intéresse ici. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Nous devons reconnaître que l'Éternel est Dieu. Il est Dieu. Vous savez, l'Éternel n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Vous savez, par moments, les hommes sont plus durs que Dieu. Par moments, les hommes ne pardonnent pas. Mais l'Éternel a un cœur de Dieu. Un cœur compatissant. Un cœur plein d'amour. Un cœur plein de grâce. L'Éternel, Manassé reconnaît que c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Un homme ne peut pas le faire. Vous le faites tous ces mots, tout ce que vous le faites comme problème. Et l'homme pardonne. Non, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Manassé reconnaît que ça, c'est Dieu. Et que Dieu seul peut le faire. Après cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guion, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers, les idoles. Il les renversa tous. Il les renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et lui offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça veut dire tout simplement Manassé, quand il a joui, quand il a bénéficié de la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre de l'ordre dans sa vie. Il va sanctifier sa vie et sa maison. Il va purifier sa vie. Il va purifier sa maison, il va purifier le temple. Tout ce qu'il avait commis comme péché, il va tout purifier. Il va tout réparer. Il va tout enlever. Il va se séparer. Il va détruire. Il va enlever tout ce qui est mauvais. Il va changer d'attitude radicalement pour demeurer avec l'Éternel. Puisque nous avons mal agi, puisque nous avons mal fait, et Dieu nous a mis dans une situation difficile, Dieu nous a châtiés, et que devons-nous faire? Parce que après tout, nous avons demandé pardon, nous sommes repentis, et l'Éternel est revenu de sa décision, qu'allons-nous faire? Allons-nous dire, bon, c'est fini, il m'a pardonné, il m'a restauré, j'ai mené ma vie comme je le faisais avant? Non, c'est le temps maintenant de se mettre dans le droit chemin. C'est le temps maintenant de ne plus aller ni à gauche ni à droite, mais de demeurer fidèle. C'est le temps maintenant de mener la vie de sainteté, la vie de sanctification. C'est le temps maintenant de se consacrer, de se donner totalement à Dieu. C'est le temps maintenant d'oublier tous ces plaisirs du monde, de les détruire, de se séparer de ces choses qui nous éloignaient de Dieu et qui nous attiraient le malheur pour maintenant nous attacher à Dieu. Manassé va détruire tous les idoles. Il va détruire tous les hauts lieux. Il va purifier Jérusalem. Il va purifier les temples. Il va revenir totalement à son Dieu. Le Dieu qui a pardonné. Le Dieu qui l'a restauré. Ces dieux-là méritent le respect. La Bible dit, s'il voulait piller nos fautes qui pourraient subsister, c'est à lui qu'appartient le pardon, afin qu'on les respecte. Il mérite notre respect, il mérite notre considération. Quelque part, il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia. C'est le temps là de lui donner tout ce qui lui revient de droit, son honneur. C'est le temps là de nous donner à lui, nous-mêmes, de vivre, de commencer à mener une vie pour lui, de ne plus vivre pour nous-mêmes, comme nous vivions par le passé. Qu'à partir de maintenant, que les autres histoires soient comme passées, que nous considérions toutes ces choses comme du passé et que nous commencions une nouvelle vie avec lui. Amen. Dieu se laisse fléchir. Non pas parce qu'il est manipulable, parce qu'il est miséricordieux. Et si nous nous humilions profondément et que nous revenions à lui, il va se laisser fléchir. Il va nous restaurer et nous rétablir et à nous maintenant de nous amender et de marcher avec l'Éternel. Nous allons prier le Seigneur.
Alléluia.
Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur t'a parlé. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Mais tout ce que je vais te demander maintenant, c'est de commencer à parler, à prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Répands ton cœur. Ouvre-toi. Explose devant lui. Fais comme a fait Manassé. Fais comme a fait Manassé. Prie le Seigneur.
Merveilleux message. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Si Dieu vous a parlé et vous êtes touché par ces messages, vous pouvez lever la main là où vous êtes et nous voulons prier ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Levez bien haut votre main, merci. Le Seigneur vous voit. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Merci. Dieu est bon. Il n'est pas là pour nous juger. Il nous avertit seulement. Sa parole sauve et guérit même. Vous qui avez levé vos mains, veuillez vous tenir sur vos pieds, s'il vous plaît. Nous voulons prier ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis de Dieu. Gloire à Jésus. Papa Ben, venez prier, s'il vous plaît.